Frères et sœurs, Dieu est en train d'achever le plus grand élément de sa création actuellement. Dans le cœur de l'humanité, c'est là où va se terminer sa plus grande partie de sa création. Dieu construit son caractère saint et juste dans ceux qui sont à lui. Par conséquent, nous avons de bonnes raisons de nous poser des questions telles que « Ai-je le sentiment que Dieu construit son caractère en moi? Ai-je le sentiment que je suis prêt à changer quand je découvre de la nouvelle instruction des choses qui me révèlent? » L'apôtre Pierre nous adresse un avertissement sévère en 2 Pierre 3, versets 17 et 18. Je vais vous citer. « Vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis, tenez-vous sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté, mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. À lui soit la gloire, maintenant et pour l'éternité. Amen. » Ce sont des paroles puissantes, motivantes, que moi j'ai besoin de lire chaque semaine presque, parce que c'est quand même un projet en cours, n'est-ce pas? Cette idée de croître dans la grâce et dans la connaissance. Et où se situe cette priorité, cette tâche dans nos listes, dans notre liste de priorités? Des fois, honnêtement, il y a des distractions qui nous arrivent. Il y a d'autres priorités qui semblent plus important pour le moment, plus conséquent pour le moment. Et des fois, petit à petit, sans apercevoir, on peut baisser cette chose sur la liste de nos priorités. Ça peut devenir une priorité de plus en plus bas sur notre liste. Mais ça devrait rester une bonne priorité, une grande priorité de notre vie. Que ce soit au début de notre conversion, que ce soit jusqu'à la fin de la vie. L'idée, c'est qu'on croit toujours, qu'on continue à croître dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur de Jésus-Christ. Ce n'est pas croître dans la connaissance du monde. Ce n'est pas croître dans la connaissance de tout ce qui se passe dans les informations. Ce n'est pas croître dans ces endroits-là, mais c'est dans notre Seigneur et notre Sauveur, Jésus-Christ, ça veut dire son caractère. Malheureusement, comme Pierre nous avertit, il est bien possible qu'on soit trop sûr de nous dans cette chose et qu'on accepte que peut-être moi, ma croissance, c'est ferme et c'est fini. Donc, il y a une différence entre la confiance en Dieu et la confiance dans notre foi, la foi vraiment développée, et l'idée que moi, j'en ai plus besoin de croître. Ça, c'est une grosse différence entre les deux. Une façon de résumer cet avertissement, c'est attention, frères et sœurs, continuons à croître ou vous risquez de tomber. Il y a un risque. Quand on s'arrête, on risque de s'égarer. Et le monde aime bien nous distraire de cette priorité ultime de croître dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur. Quand on considère les béatitudes de Matthieu chapitre 5, on va y reporter, on cherche à mieux comprendre justement et à mieux mettre en pratique cette grâce et cette connaissance de Jésus-Christ notre Seigneur. Si vous connaissez les béatitudes, vous connaissez que chaque béatitude concentre sur des questions de cœur, sur des questions de caractère. Et chaque béatitude nous aide également à aiguiser notre vision des bénédictions du prochain règne millénaire de Jésus-Christ sur la terre. Chaque aspect de caractère, si vous voyez les béatitudes comme des aspects de caractère, chaque aspect est associé à une promesse qui est vraie pour aujourd'hui, mais qui également nous oriente vers le royaume de Dieu à venir. Donc, et notre propre préparation, justement, pourquoi on concentrerait sur croître dans la grâce et dans la connaissance? C'est pour avoir accès à ce royaume et pour avoir vraiment la plénitude dans ce royaume à venir, pour faire le mieux que possible avec le don que Dieu nous a donné. Aujourd'hui, alors, examinons Matthieu 5 et le verset 3. Matthieu 5 et le verset 3. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Donc, dès le départ de ces béatitudes, notre pensée est bien orientée vers le royaume de Dieu, n'est-ce pas? C'est pour ça que nous sommes tellement motivés, nous connaissons tous Matthieu 6, 33, hein, chercher le royaume de Dieu et sa justice. C'est une priorité dans la vie chrétienne. Et ça devrait nos priorités devraient s'associer avec ce royaume à venir. Quand il s'agit d'interpréter Matthieu 5, et le verset 3, on lit ici « Heureux les pauvres en esprit ». Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire « pauvre en esprit » Quand on considère la signification, les érudits tombent dans deux camps différents. Un côté met l'accent sur les pauvres en tant qu'un groupe de personnes qui ont très peu physiquement. L'autre côté voit le pauvre en esprit comme une expression métaphorique représentant un état spirituel. Un état d'humilité et dépendance vis-à-vis de l'esprit, du nouma. Donc, j'ai tendance à être d'accord avec l'idée que cette béatitude concerne un trait de caractère spirituel. Mais nous avons quand même une leçon que nous avons à apprendre de cet état physique d'être pauvre. Je crois que cet argument est soutenu par les autres béatitudes aussi et leur concentration sur les problèmes qui touchent justement au cœur, à la caractère et à notre fort intérieur. J'espère que cela deviendra plus clair au fur et à mesure que nous avancerons aujourd'hui. Dans l'Ancien Testament, plusieurs mots hébreux ont été traduits par le mot « pauvre ». Cela présente un défi des fois pour comprendre certains passages lorsqu'ils sont lus aujourd'hui, mais le mot hébreu qui semble correspondre le mieux au grec de Matthieu 5, verset 3, c'est le mot « ani » qui indique le besoin. « Ani » indique le besoin. La définition de Brown Driver Briggs, un commentaire, c'est « soit affligé, soit humble, soit misérable ». Selon les notes de Brown, il est remarquable que Jésus parle de cette manière, si différent de tous les autres de son époque et des époques avant lui. D'autres maîtres dans l'Antiquité avaient enseigné que le bonheur se trouvait dans l'honneur ou la richesse, la splendeur, le plaisir sensuel, on pense aux Grecs, aux Stoïques, aux différentes philosophies. Jésus a négligé toutes ces choses pour fixer son perspective sur les pauvres et les humbles. Et il a dit que le bonheur se trouvait dans cette vallée modeste de la pauvreté, plus que dans la pompe et les splendeurs de la vie. Mais le monde va nous vendre cette idée que plus on a de richesse, plus on a de pouvoir, plus on peut être content, n'est-ce pas? C'est quelque chose que nous connaissons tous. C'est un mensonge. Si j'accumule plus dans ce monde, j'aurai le bonheur. C'est ça, le mensonge de ce monde. Mais on trouve des gens très riches en termes d'argent aujourd'hui qui ne sont pas du tout contents. Et si vous considérez la richesse de l'Occident vis-à-vis des pays en voie de développement, vous considérez la richesse que nous avons ici, on est tous riches dans cette façon de dire vis-à-vis de ceux qui souffrent, des milliards de personnes qui souffrent dans le monde entier. Donc, pourquoi cette société occidentale ne serait pas plus contente si on a les besoins couverts, si tout est couvert, si on a accès à ces choses? Il n'y a pas de lien entre l'argent, la richesse et le bonheur. C'est un mensonge, n'est-ce pas? Nous le savons, nous sommes avertis. Cependant, l'enseignement du Christ est cohérent avec le traitement que Dieu a réservé aux pauvres dans l'Ancien Testament. Ces enseignements correspondent bien à ce que nous trouvons dans la loi de Dieu, dans le Torah, dans l'Ancien Testament. Nous pouvons mieux comprendre cet aspect unique du caractère divin en considérant à l'esprit que Dieu a toujours pris soin des pauvres, dans l'ancien Israël en particulier. Par exemple, j'ai trouvé une liste de principes ou préceptes très intéressants tirés du Torah, les premiers 5 livres de la Bible, qui a attiré mon attention. C'était de Eastern Bible Dictionary. Et c'est indiqué la loi mosaïque concernant les pauvres est particulièrement importante. Donc, considérons, on va balayer cette liste, considérons d'abord Lévitique 19 et le verset 9 à 10. Lévitique 19 et les versets 9 à 10. Je vous donne ces exemples pour démontrer que les enseignements de Jésus correspondent bien avec ce que nous trouvons dans la loi de Dieu. Des fois, les gens ont une tendance à croire que Dieu de l'Ancien Testament, c'est un Dieu sévère qui punit tous, qui n'a pas d'amour. Mais considérons ce qu'il écrit ici, peut-être ce qu'on trouve ici, ce que Dieu définit dans la loi mosaïque. Ils avaient le droit de glaner dans les champs. Lévitique 19, versets 9 à 10. J'étais dans Lévitique 9. Mais Lévitique 19, verset 9, « Quand vous ferez la moisson dans votre pays, tu laisseras un coin de ton champ sans le moissonner, et tu ne ramasseras pas ce qui reste à glaner. Tu ne cueilleras pas non plus des grappes restées dans ta vigne, et tu ne ramasseras pas les grains qui sont glanés. Tu abandonneras cela aux pauvres et à l'étranger. Je suis l'Éternel, votre Dieu. » Deuxièmement, pendant l'année sabbatique, ils devaient avoir leur part du produit des récoltes et des vendanges. Exode 23, verset 11. Exode. Il y a d'autres exemples, mais je vais juste vous donner quelques-uns. Exode 23 et le verset 11. Exode 23 concerne l'année sabbatique. Donc, on peut commencer au verset 10 pour avoir le contexte. « Pendant 6 années, tu ensemenceras la terre et tu en recueilleras le produit, mais la 7e, tu lui donneras du relâche et tu la laisseras en repos. Les pauvres de ton peuple en jouiront et les bêtes des champs mangeront ce qui restera. Tu feras de même pour ta vigne et pour tes oliviers. » Souvent, on pense à cette année sabbatique, mais on ne pense pas toujours au fait que dans cette description, dans cette précepte, sont intégrés les droits, si vous voulez, des pauvres. Dieu pense à ceux qui sont dans le besoin. Dieu n'ignore pas ceux qui sont dans le besoin. Donc, Lévitique 25, encore dans Lévitique, nous avons l'année de jubilé, décrit ici, Lévitique 25. Donc, si jamais quelqu'un vous dit que Dieu de l'Ancien Testament est vraiment un Dieu trop sévère, bon, considérons ces versets comme des exemples de sa préoccupation avec ceux qui sont pauvres. Lévitique 25, verset 25. Si ton frère devint pauvre et vend une portion de sa propriété, celui qui a le droit de rachat, son plus proche parent, viendra et rachètera ce qu'a vendu son frère. Si un homme n'a personne qui ait le droit de rachat et qu'il se procure lui-même de quoi faire son rachat, il comptera les années depuis la vente, restituera le surplus à l'acquéreur et retournera dans sa propriété. Ça continue jusqu'au verset 30. S'il ne trouve pas de quoi lui faire cette restitution, ce qu'il a vendu restera entre les mains de l'acquéreur jusqu'à l'année du jubilé. Au jubilé, il retournera dans sa propriété et l'acquéreur en sortira. Si un homme vend une maison d'habitation dans une ville entourée de murs, il aura le droit de rachat jusqu'à l'accomplissement d'une année depuis la vente. Son droit de rachat durera un an, Mais si cette maison située dans une ville entourée de murs n'est pas rachetée avant l'accomplissement d'une année entière, elle restera à perpétuer à l'acquéreur et à ses descendants. Il n'en sortira point au jubilé. Donc une petite différence entre le traitement des maisons dans les villes entourées de murs et à l'extérieur. Mais si vous considérez l'échange de la propriété qui retourne à ceux qui peut-être seraient tombés dans le besoin, c'est quelque chose qui est comme une assurance pour ceux qui sont vraiment dans le besoin. Après, nous savons, on ne va pas y reporter, mais l'usure était interdite aussi, et le vêtement promis devait être rendu avant le coucher du soleil. Ça, c'est dans Exode 22, du verset 25 à 27, et ailleurs. Donc, après, nous avons les années où le serviteur devait partir en liberté. Deutéronome 15, verset 12. Si l'un de tes frères hébreux, homme ou femme, se vend à toi, il te servira 6 années, mais la septième année, tu le renverras libre de chez toi. Donc, si quelqu'un s'endette trop et décide de faire ça, il est libéré. C'est une loi en Israël, c'était une loi en Israël d'avoir cette liberté. Après, certaines portions de la dîme ont été attribuées aux pauvres aussi. Deutéronome 14, on est juste à côté. Deutéronome 14, versets 28 à 29. Je ne vais pas lire ça. Et puis finalement, les salaires devaient être payés à la fin de la journée du travail pour garantir que personne ne soit sans rien pendant longtemps. Ah, je vais prendre le temps de vous payer, vous m'avez rendu service. Alors, c'était quand et combien d'heures? Ah, je ne me souviens plus. Je vous dois quand, combien? Vous connaissez peut-être ça. Des fois, les gens oublient le travail que nous faisons quand il est l'heure de payer les frais. Donc voilà, ce sont des exemples et nous pouvons donc voir que les pauvres, physiquement parlant, n'étaient certainement pas oubliés par Dieu dans l'Ancien Testament, dans l'Ancien Israël. C'était quand même quelque chose pour rappeler à tout le monde l'importance des pauvres et leurs besoins, de ne pas les oublier. Tout au long des psaumes et des proverbes, nous voyons des exemples de la façon dont Dieu attend de nous que nous prenions soin des pauvres. Donc, ce n'est pas juste à Dieu de s'en occuper, c'est avec nos actions, nos propres actions, que nous nous occupons des pauvres aussi. Mais que pouvons-nous apprendre des pauvres physiquement qui peuvent nous aider à comprendre que nous sommes pauvres d'esprit? On va y aller. Saviez-vous que plus d'un milliard de personnes dans le monde survivent aujourd'hui avec seulement 1 $ par jour? Plus d'un milliard de personnes. Ma femme et moi avons regardé un documentaire dans lequel des étudiants américains au niveau universitaire, en économie, ont décidé de planifier leur propre voyage au Guatemala, l'un des pays les plus pauvres du monde, pour tenter de comprendre la vie de certaines des personnes les plus pauvres du monde. Ce n'était pas un voyage ordinaire, cependant, leur objectif était de voir si les 4 d'entre eux pouvaient survivre avec 1 $ par jour pendant 8 semaines. 8 semaines. Pour rendre les choses plus réalistes, ils ont décidé de tirer un nombre aléatoire chaque jour entre 0 et 9 $ pour simuler l'idée que cet argent rentre dans une façon aléatoire. Peut-être même plusieurs jours, ils ont pris un 0 pour ce jour-là. Donc voilà, il y avait quand même déjà un maigre revenu, mais à ajouter cet aspect aléatoire, c'était plus réaliste aussi. En particulier dans les régions les plus pauvres du monde, même comme je viens de vous citer des versets bibliques, Même si on travaille pour quelqu'un, ça ne veut pas dire qu'ils vont nous payer ce qu'on avait prévu. Donc, cela signifiait que pendant plusieurs jours, ils avaient peut-être 0 $. Ils ont eu beaucoup de mal à se nourrir de ce petit bouger. Ils ont tous survécu et ils sont sortis, mais ils ont beaucoup souffert. Ils sont sortis de l'expérience avec une grande appréciation pour la lutte à laquelle sont confrontées environ 1 milliard de personnes dans le monde d'aujourd'hui tous les jours. L'une des grandes leçons qu'ils ont apprises est que les très pauvres doivent faire des choix difficiles chaque jour, presque tous les jours, pour pouvoir se nourrir ou pouvoir donner à manger à leur famille. Pour les étudiants que leur corps se révoltait contre la réduction de l'apport alimentaire, ils sont devenus très léthargiques, ils n'avaient pas l'énergie pour travailler. En plus, en Guatemala, il fait chaud. Ils abandonnèrent toute préoccupation, alors des fois ils tombaient par terre, ils ont pris des sommeils, ils étaient quand même complètement épuisés de leur énergie, mais leur esprit et leur estomac voulaient juste essayer d'obtenir suffisamment de haricots ou de petites bananes pour les faire fonctionner chaque jour. Tout comme la définition du mot hébreu « anaï » rapidement, affligé ou humble et misérable. Au cours du processus, cependant, ils ont compris de façon vive la différence entre les désirs, ce qu'on voudrait, et les besoins. Dans une entrevue vers la fin du film, les villageois locaux de Guatemala ont mentionné que des gens comme eux doivent lutter tous les jours pour survivre. Nous voyons donc que les pauvres physiquement sont constamment conscients de ce que sont leurs plus grands besoins. Leurs priorités ne sont pas difficiles à établir. C'est déjà fait. C'est manger, boire, avoir un endroit, un abri. Ils ont des priorités essentielles. En d'autres termes, les pauvres passent une grande partie de leur temps à chercher ce dont ils ont vraiment besoin. Donc voilà la parallèle entre physiquement pauvres et pauvres spirituellement. Si nous sommes pauvres spirituellement, nous allons déjà mettre en priorité les choses spirituelles, n'est-ce pas? C'est déjà défini pour nous. Si nous sommes pauvres d'esprit, nous allons mettre déjà sur la plus haute liste de la liste la priorité d'être en contact avec Dieu, de croître spirituellement, de se préparer pour le royaume à venir. En 1968, dans son livre intitulé « Toward a Psychology of Being », le psychologue Abraham Maslow a identifié sa fameuse hiérarchie des besoins, soit les besoins physiologiques qui sont dans une pyramide, si vous avez déjà vu ça, très bas, manger, boire, dormir, respirer. Après, la sécurité, se sentir en sécurité, faire confiance à d'autres personnes. Après, les besoins sociaux, la communication, l'amour, ainsi de suite. Et puis, l'estime de soi et la réalisation de soi tout en haut de la pyramide. Donc ça, c'était les priorités. Et vous allez dire pourquoi on met ça en haut de la pyramide et pas à l'autre. C'est comme, pour lui, il fallait construire la pyramide de bas en haut. Donc ceux qui s'occupent de leur maîtrise de soi, de l'estime de soi, sont censés d'avoir déjà des besoins plus physiques ou physiologiques déjà traités. Mais l'idée, c'est que si on ne peut pas traiter ces besoins les plus essentiels, alors on va avoir du mal à faire d'autres choses. À la lumière de la béatitude que nous examinons aujourd'hui, il y a ici une leçon spirituelle des pauvres physiquement. Tout comme nous pouvons être distraits par des besoins physiques et oublier nos besoins physiques ou nos besoins, parfois nous pouvons aussi être distraits spirituellement. Ces choses du monde peuvent nous distraire de ce qui est le plus important. Même l'apôtre Jean a dit dans 1 Jean 2, versets 15 à 17, « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Ça, c'est vraiment un bon passage pour mettre en contraste les besoins ou les désirs avec les choses qui sont spirituelles. Le monde ou pas le monde. Le monde ou la voix de Dieu. C'est assez clair dans ce verset-là. Donc nous pouvons être vraiment distraits, et même tellement distraits, que des fois nous oublions à quel point nous avons besoin de Dieu. On a tendance, les hommes, à se dire, moi, je m'occupe de mes problèmes moi-même. Des fois, on ne va pas mettre notre vie et nos problèmes entre les mains de Dieu. On va se contenter d'aller un peu seul dans cette voie qui mène à la vie. Donc, parfois, nous confondons les désirs avec des besoins. Est-ce que vous avez déjà entendu quelqu'un qui dit « J'ai vraiment besoin d'une nouvelle voiture. J'ai vraiment besoin d'une maison plus grande. J'ai vraiment besoin d'un salaire plus élevé. » Est-ce que vraiment vous avez besoin de ces choses ou est-ce que vous voudriez ces choses? Ça, c'est la différence. Pour identifier les besoins et les désirs. Mais on ne peut pas se tromper. On a besoin de Dieu. Mais est-ce qu'on a le désir de s'approcher de Dieu? C'est ça la question après. Qu'on sache ou pas, on a besoin de Dieu. On a toujours besoin de Dieu. Mais à nous de mettre ça en priorité ultime dans notre vie, étant pauvre d'esprit. Est-ce que vous avez déjà rencontré une situation dans laquelle il fallait tout perdre, où vous avez peut-être perdu le contrôle de la situation et vous risquiez de tout perdre? Parfois, le simple fait de s'approcher de ce point, peut-être c'est un danger, peut-être c'est un point où vous avez peut-être perdu ou presque perdu tout l'argent, tous vos biens, ou peut-être les relations, ça peut après apparaître dans le côté relationnel aussi. Et vous voyez ce qui se passe, soit vous l'avez perdu, soit vous avez presque perdu, et vous avez souffert de l'inquiétude de ce qui pourrait arriver. Ce qui aurait pu arriver, par exemple. Pour les pauvres, n'avoir rien tous les jours, c'est une réalité quotidienne. Donc, ils sont à un pas de la fin, n'est-ce pas? Si les choses ne tombent pas dans leur, pour eux, ben, ils peuvent tout perdre. Ils n'ont pas beaucoup, mais ils peuvent tout perdre. Ils peuvent même perdre leur vie, perdre leurs enfants, perdre leur liberté. Plus nous, en arrivant à comprendre que notre plus grand besoin, c'est Dieu et son Esprit Saint en nous, plus notre perspective change sur nos besoins et nos désirs. Donc, Christ montre l'exemple d'être pauvre d'esprit. Revenons à ce sujet de l'état spirituel d'être pauvre d'esprit. Le commentaire d'Adam Clark fait un lien entre l'état de pauvreté physique et l'état de pauvreté spirituelle que Jésus-Christ enseigne. Adam Clark écrit « Pauvre d'esprit, celui qui est profondément sensible à sa pauvreté spirituelle et à sa misère. » Le mot grec « un pauvre » est lié à l'idée de trembler ou rétrécir de peur. Étant dépourvu des vraies richesses, il est éveillé en tremblant aux nécessités de son âme, rétrécissant de peur de ne pas périr sans le salut de Dieu. Christ déclare celui heureux ou bienheureux parce qu'il ne vit pas plus d'un pas du royaume qui est ici promis. Donc, regardons maintenant quelques exemples de la façon dont Jésus-Christ lui-même a enseigné et illustré cet état spirituel. Ce n'est pas limité à Matthieu 5, verset 3. Nous avons commencé avec ça, mais plus loin, dans le serment sur la montagne, Jésus développe cette instruction encore plus, en nous appelant à changer notre perspective, à nous concentrer sur notre besoin de Dieu et à rechercher d'abord son royaume. C'est dans Matthieu 6, mais Luc 12 aussi, peut-être c'est une bonne chose à considérer. Ce contient un passage parallèle que nous considérons aujourd'hui. Nous connaissons déjà Matthieu 6, 33, mais je vous invite à vous reporter à Luc 12, verset 29. Souvent, moi, j'ai des habitudes à reprendre les mêmes versets, des fois, nous avons nos versets, nos passages préférés, c'est sûr, mais des fois, c'est bien de changer un peu de vitesse pour aller ailleurs dans les évangiles. Donc, Luc 12, verset 29. Luc 12, verset 29. À 34. Et vous ne cherchez pas ce que vous mangerez et ce que vous boirez, et ne soyez pas inquiets, car toutes ces choses, ce sont les païens du monde qui les recherchent. Votre Père sait que vous en avez besoin. Cherchez plutôt le royaume de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Vendez ce que vous possédez et donnez-le en aumône. Faites-vous de bourses qui ne s'usent point. Un trésor inépuisable dans les cieux, où le voleur n'approche point et où la taigne ne détruit point. Car là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. Encore, le sujet, c'est notre fort intérieur, notre motivation. C'est ce qu'on établit qui, après, nous permet de faire nos choix. Si nous sommes bien établis dans le cœur, après, les autres choses vont se passer mieux, n'est-ce pas? Donc, qu'est-ce que nous avons ici? C'est une partie de l'apprentissage de la pauvreté de l'esprit consiste à réaliser, à se rendre compte et à croire qu'il y a un trésor spirituel pour nous au ciel. Les membres baptisés du corps de Christ ont reçu un acompte sur la vie éternelle, au baptême et à l'imposition des mains. C'est un véritable trésor spirituel en nous, d'une valeur inestimable. C'est un trésor que nous pouvons à peine imaginer, mais ça agit en nous déjà. Et tant que nous ne l'avons pas reçu, cet avenir, nous devons le chercher, le désirer. Et on peut imaginer avec les versets, les promesses de Dieu, cet avenir, ce pouvoir à venir. Si nous considérons Jean chapitre 1, nous considérons l'état de Jésus-Christ avant de venir ici-bas. Pour comprendre jusqu'à quel point Christ a bien démontré cette béatitude, Matthieu 5, verset 3, nous devons nous rappeler qu'il a choisi de quitter sa place à la droite de Dieu pour vivre comme un homme sur la terre. Ce faisant, il a choisi non seulement de vivre une vie avec très peu de biens matériels, mais aussi de souffrir jusqu'à la mort. Mais considérons Jean chapitre 1, qui a fait ce choix? Quel être a fait ce choix de devenir, de souffrir pour nous, à notre place? Jean 1, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. C'est une histoire tragique résumée dans quelques versets, n'est-ce pas? Le monde n'a pas reçu la lumière. Le monde a rejeté la lumière. Mais Dieu continue de travailler avec nous. Son plan avance. Son plan continue. Mais celui-là, la parole qui était avec Dieu, qui était Dieu, qui était intégrale dans la création de toutes choses, c'est celui-là qui est venu ici, qui a décidé que la douleur, la souffrance n'était pas trop pour lui. qu'il allait passer par là. Il ne connaissait pas ses faiblesses humaines. Et il a choisi de les commettre pour nous. La nature même de Christ se révèle dans sa volonté de venir ici-bas en tant qu'homme, son amour pour nous. Bien que nous nous réunissons en lisant les évangiles que Jésus a illustré ceci et toutes les béatitudes, nous trouvons un exemple concis dans les écrits de Paul aussi à Corinthe. Paul parle de Christ qui est devenu pauvre pour que nous devenions riches. 2 Corinthiens 8 et le verset 9. Bien sûr, nous avons tous les exemples de la vie de Christ dans les évangiles, mais Paul aussi souligne cette attitude, ce choix qui était volontaire. 2 Corinthiens 8 et le verset 9. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur, Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous soyez enrichis. Par sa pauvreté, vous soyez enrichis. Donc, c'était un choix. Il nous rappelle que c'était un choix de vivre en pauvreté pour nous. Pour nous donner accès à une vraie richesse qui n'est pas périssable. C'est l'un de ces endroits où le mot pauvre apparaît dans une expression figurative. Cette pauvreté, c'est un esprit pauvre, contrit. C'est comme la pauvreté d'esprit. Avoir le cœur pauvre et contrit, c'est une clé pour être pauvre en esprit. C'est un état de cœur. Ça nous fait penser au psaume 51. Psaume 51, versets 14 à 17. Jésus a accompli plusieurs prophéties bibliques de l'Ancien Testament. Il a souffert. David aussi cherchait selon le cœur de Dieu. Il avait le cœur selon Dieu et cherchait le pardon pour ses péchés. Il avait une pauvreté d'esprit dans son cœur. Considérons le psaume 51 et le verset 14 à 17. Psaume 51, bon psaume à relire avant la Pâque, d'ici quelques semaines, 6 semaines à peu près. Psaume 51. Mais sautons jusqu'au verset 14 ici. 14. Rends-moi la joie de ton salut, David écrit, et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. J'enseignais tes voies à ceux qui les transgressent, et les pécheurs reviendront à toi. Ô Dieu, Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé, et ma langue célébrera ta miséricorde. Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche publiera ta louange. David s'est rendu compte de son besoin de Dieu, du besoin qu'il avait de Dieu, de son pardon, de son enseignement, de son soutien. Donc il a demandé à Dieu ces choses. Il y a aussi le psaume 69. Le psaume 69. Je voudrais passer un bon moment ici dans le psaume 69 aujourd'hui pour voir jusqu'à quel point ce psaume est un appel de David à propos d'être délivré de ses ennemis. Mais il s'appliquait à Christ et il peut également s'appliquer à nous. Cette idée de chercher, d'avoir besoin de Dieu quand on est entouré d'ennemis ou entouré même de nos propres péchés. Donc, psaume 69 et le verset 29, on va commencer à lire ça dans quelques instants, mais Considérons le fait que David avait de nombreux ennemis. David étant un homme de guerre, on était toujours en train de comploter contre David et on attendait un bon moment pour précipiter sur lui, pour l'attaquer, pour prendre sa position. Et cela a été le cas pour la plupart des rois et des dirigeants. Il y avait une violence pour chercher le pouvoir, pour chercher l'héritage du royaume. Mais peu ont réagi comme le roi David. Ce psaume commence par les mots « Sauve-moi, ô Dieu » au verset 2. Mais ce psaume est mentionné 7 fois aussi dans le Nouveau Testament comme prophétique du Christ et des temps de l'Évangile. C'est aussi une prophétie du royaume de Dieu à venir, un réconfort pour ceux qui cherchent ce royaume aujourd'hui. Et nous avons, là où nous allons commencer aujourd'hui, au verset 29, le mot « Ani », « pauvre d'esprit ». Je voudrais commencer par revoir ce passage en verset 29. Verset 29. « Qu'il soit effacé du livre de vie, ou oh, pardon, 29, c'est toujours... Voilà, verset 30, voilà, verset 30, parce qu'en anglais c'est le verset 29, en français c'est le verset 30. « Moi, je suis malheureux et souffrant, ô Dieu, que ton secours me relève. » Donc, je suis malheureux et souffrant. Il est dans cet état de pauvreté d'esprit. Et qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait dans cet état de pauvreté d'esprit? Nous apprenons de David ici. Nous gardons à l'esprit ce contraste que David constate entre lui et Dieu aussi, lui étant pauvre d'esprit et Dieu étant puissant, tout puissant, pour la délivrance, pour le salut. Et David est bien conscient de cette différence. Donc continuons au verset 31. « Je célébrerai le nom de Dieu par des cantiques, je l'exalterai par des louanges. » Donc, quand il était pauvre d'esprit, il a choisi, il a déclaré, « Je vais chanter, je vais te célébrer, Dieu. Je t'exalterai par mes louanges. » C'est sa décision. « Je ne vais pas me plaindre ici de mon cas, je vais rendre grâce à toi. » C'était une action, on peut dire, plutôt proactive, une action positive au lieu d'être déploré et de devenir isolé, de se laisser aller, s'égarer. Donc nous aussi, nous pouvons nous réjouir. Donc verset 32, « Cela est agréable à l'Éternel plus qu'un taureau avec des cornes et des sabots. » Donc à chaque assemblée sabbatique, nous avons la possibilité de chanter ensemble et ce n'est pas juste pour qu'on s'entende ici, hein, c'est sûr. C'est pour que Dieu nous entende, n'est-ce pas? Nous chantons devant lui pour sa grandeur, pour faire plaisir à l'Éternel, n'est-ce pas? À notre Père Céleste et son Fils Jésus-Christ. Les riches et les pauvres sont tous capables d'offrir ceci à Dieu, n'est-ce pas? Un cœur contrit, une attitude de louange. On n'a pas même besoin d'avoir une voix, parce que Dieu entend le cœur de l'homme, n'est-ce pas? Il peut considérer notre cœur. Donc même ceux qui sont muets sont capables de penser, de réfléchir à Dieu. Et lui, il comprend, il reçoit. Nous sommes chanceux tous de pouvoir chanter. Donc quand nous chantons, pensons au fait que nous chantons à Dieu ces choses. Faites attention aussi, faisons attention aux paroles, parce que nous chantons ces paroles à l'Éternel. C'est lui qui reçoit ce que nous envoyons, ce que nous chantons. Et en plus, on chante aussi pour ceux qui sont autour, parce que c'est encourageant aussi. Mais le but principal, bien sûr, c'est de louer notre Dieu Tout-Puissant. C'est plus agréable à Dieu qu'un taureau, d'un gros sacrifice très coûteux qu'un riche pouvait faire à l'époque. Verset 33, « Les malheureux le voient et se réjouissent, Vous qui cherchez Dieu, que votre cœur vive. Le malheureux le voit. Donc ceux qui souffrent peuvent se réjouir. Celui qui est humble peut se réjouir. Celui qui souffre peut changer d'attitude, changer de son perspective quand il réfléchit, quand il médite la grandeur de Dieu, la puissance de Dieu. Verset 34, « Car l'Éternel écoute les pauvres et il ne méprise point ses captifs. » Le pouvoir, la richesse n'ont pas besoin d'être entendus par Dieu. L'Église n'est pas un club pour les riches. L'Église de Dieu, c'est pour tout le monde que Dieu appelle. Donc, verset 35, que les cieux et la terre le célèbrent, les mers et tout ce qui s'y meut. Chaque bête, chaque aspect physique peut louer Dieu. Verset 36, car Dieu sauvera Sion et bâtira les villes de Juda. On s'y établira et l'on en prendra possession. Nous pouvons participer à ce processus promis que le royaume de Dieu va s'installer ici, sur la terre, et nous allons, le règne de Christ, sous le règne de Christ, nous allons construire, nous allons bâtir un nouveau monde. Nous pouvons participer à cela. Donc voilà, nous avons la possibilité de réjouir dans ces choses. Et quand nous sommes pauvres d'esprit, cette réjouissance, cette idée de tourner envers Dieu, de s'approcher de lui, c'est notre ultime priorité. Nous ne pouvons pas acheter l'accès à cet avenir. Ce n'est pas l'argent qui peut acheter cet accès. Verset 37, la postérité de ses serviteurs en fera son héritage. C'est un héritage. C'est quelque chose que Dieu nous donne. C'est quelque chose qui vient de lui, qui ne s'achète pas. Ceux qui aiment son nom y auront leur demeure. Donc nous avons devant nous le salut. Nous avons devant nous le royaume de Dieu. C'est offert aux pauvres en esprit. Donc, Dieu a ramené un peuple de l'esclavage en Égypte dans le passé, et il peut aussi nous ramener, si vous voulez, d'un esclavage au péché. C'est ce qu'il fait. Il donnera un grand héritage à ceux qui sont à lui et qui l'aiment, qui sont des pauvres de l'esprit. Et nous, comment pouvons-nous mettre en pratique ce trait de caractère divin? D'abord, développons une humble opinion de nous-mêmes. La réalité, c'est que nous sommes tous faibles devant Dieu. Il est tout puissant. Même ceux qui ne croient pas, même ceux qui ne se rebellent ou qui se rebellent contre Dieu, finiront par s'incliner devant lui. C'est tout genou, n'est-ce pas? Chaque genou fléchira. Un vieil adage dit « soyez humble ou soyez humilié ». Vous avez le choix. Vous pouvez vous humilier. Vous allez devenir humble ou vous pouvez attendre qu'un jour vous serez humilié. Mais chaque genou, même ceux qui sont en puissance, en pouvoir maintenant, ils vont devenir abaissés. Le jeûne est aussi un acte d'humilité. Le jeûne nous fait rapprocher de lui. Il rappelle à quel point la vie physique est temporaire, est fragile et jusqu'à quel point nous dépendons de Dieu. Encore une fois, l'accent sur notre besoin de Dieu. Quand on est en train de jeûner, c'est accentué, n'est-ce pas? On le ressent encore plus, l'idée que cette vie est temporaire, que nous dépendons de lui, que nous avons besoin de boire et de manger ou nous allons mourir. Si Dieu ne nous donne pas à boire et à manger, nous allons mourir. Ce corps ne peut pas durer très longtemps, sans boire, sans manger. Mais c'est Dieu qui nous donne ces choses. Et pourtant, Dieu dit, ne vous inquiétez pas, pensez plutôt à mon royaume. C'est ça que Jésus a dit. Cherchez, au lieu de chercher ces choses physiques, cherchez ce qui est à moi, cherchez cet héritage, cherchez le royaume et la justice de Dieu. Israël a rapidement oublié quand ils sont sortis d'Égypte et ils ont commencé à se plaindre tout de suite. Ensuite, même après avoir été établis en tant qu'une nation puissante, ils se sont détournés de Dieu. Dieu les a envoyés en captivité parce qu'ils se sont détournés de Dieu. C'était une punition qui les humiliait. Ils ont été dépouillés de tout ce qu'ils possédaient, même de leur terre. Deuxièmement, cherchons le pardon. Cherchons le pardon. Encore une fois, on a besoin de Dieu parce qu'on a besoin de son pardon. Se souvenir du travail que de comment il œuvre dans nos vies, ça devrait nous rappeler de notre besoin de son pardon pour nos péchés. Nous devons vivre chaque jour en sachant que Dieu a un plan qu'il accomplit en ce moment. Quand nous voyons que nous avons péché, nous repentons de ce comportement ou de cette attitude, nous recherchons le pardon de Dieu dans les médias, que nous puissions être justifiés. Nous sommes des vaisseaux spéciaux de Dieu, des vaisseaux pour la justice, pas pour l'injustice. Troisièmement, acceptant sa volonté. Si nous passons le temps à demander à Dieu de l'aide, de l'inspiration, une réponse, et si nous recevons une réponse, soyons prêts à l'accomplir, à faire sa volonté pour accomplir. Nous imitons le Christ lorsque nous cherchons à nous conformer à la volonté du Père. Christ a cherché à faire la volonté du Père. Nous avons lu récemment Jean 17, toute une prière dans laquelle Christ parle du fait « J'ai fait ta volonté, tu me les as données, je te les donne parce que j'ai fait ta volonté. » Nous devons rechercher sa volonté et ensuite faire de notre mieux pour faire cette volonté. Cela demande quand même de la patience. La réponse ne vient pas toujours tout de suite. La réponse ne conforme pas toujours à ce qu'on attendait. Des fois, son idée, c'est différent. Il est facile de se décourager. Mais à la fin, il faut accepter sa volonté. N'oublions pas que nous ne sommes pas seuls en attendant non plus. N'oublions pas, nous ne sommes pas seuls. Il est toujours avec nous. Nous devenons un instrument pour Dieu qui fait sa volonté. 2 Corinthiens chapitre 1. Dieu a décidé comment Paul allait servir l'Église. 2 Corinthiens chapitre 1. Paul, l'apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu et le frère Timothée à l'Église de Dieu, qui est à Corinthe, et à tous les saints qui sont dans toute l'Achaïe, que la grâce et la paix vous soient données et la part de Dieu, notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. C'est quelque chose qu'on peut vraiment sauter, mais Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, c'est lui qui a choisi. C'était clair que Paul était désigné par Dieu. C'était sa volonté. Et donc, c'est sa volonté aussi que Paul fasse l'œuvre de Dieu, que Paul prêche l'Évangile, que Paul commence ses congrégations, et que Paul s'adresse aux Corinthiens pour traiter ces sujets dans ces deux lettres. Donc, Paul met en ultime priorité, la volonté de Dieu, tout au début, pour qu'on soit clair que c'est son ultime objectif, c'est de chercher et de faire cette volonté. C'est peut-être une petite chose, mais pour moi, c'est une grande chose, de mettre ça en avant. On a trop la tendance de faire les choses en inverse, d'essayer notre propre volonté, et après, quand ça ne marche pas, on va demander à Dieu. Moi, je l'ai déjà fait aussi. Je l'admets. Et encore, nous avons un autre point. Cherchant premièrement, pour résumer encore, le royaume de Dieu, nous considérons le royaume de Dieu comme le plus précieux. Que n'importe quel trésor terrestre, le royaume de Dieu est plus précieux. Cela met les choses en perspective. Et nous voyons que nos besoins physiques dans cette vie sont simples. Cette simplicité se reflète dans la prière modèle de Matthieu 6, dans laquelle Christ nous instruit de demander simplement au Père notre pain quotidien. Imaginez un monde où tout le monde priait et pensait aussi simplement. Que tout le monde se contentait d'avoir leur pain quotidien et rien de plus. Ça serait un monde plus parfait, avec de la paix. Ça serait un monde meilleur, un monde où on pourrait se satisfaire. Et je crois que dans ce monde, ce serait plus facile que tout le monde ait leur pain quotidien aussi. Si moi j'étais content avec seulement mon pain quotidien, celui qui est là, je crois, éventuellement, il va pouvoir avoir son pain. Celui qui, au Guatemala, cherche le 1 dollar par jour, peut-être si on changeait le monde comme ça, eux, ils ne seraient pas en manque de sécurité pour avoir la nourriture pour leur famille. Nous ne pouvons pas avoir la pleine réjouissance sans voir le monde changer. Pouvons-nous réjouir dans notre propre vie, dans les promesses de Dieu. Mais cet contentement, cette réjouissance ne peut pas être complète avant le retour de Christ, avant l'enlèvement des puissances de ce monde, avant que le règne de Jésus-Christ s'installe et que les choses vraiment qui changent, que la justice règne ici. Nous avons besoin de ça plus que d'autres choses, plus que les trésors de ce monde. Mais si on peut se contenter de ces choses simples, je trouve que même en nous, on peut être plus content, on peut être plus heureux. Parce qu'on a peut-être moins, mais ce qu'on a, on l'apprécie beaucoup. Ça, c'est un état de pauvreté d'esprit. Parce qu'au lieu de chercher à augmenter ce que j'ai en revenu, en trésor, ce que je cherche, c'est de croître dans la grâce et la connaissance de notre Seigneur. Donc, dans cette affliction, si vous voulez, cette pauvreté d'esprit, nous faisons tous partie du plan de Dieu. Dieu a appelé les choses faibles et viles de ce monde pour confondre les sages. Il a un but dans son appel. De notre côté, même dans l'Église, les gens peuvent s'égarer. Les gens peuvent perdre leur concentration, ils peuvent se distraire, ils peuvent même devenir aveugles à ce qui est le plus important. Encore une fois, cette simplicité. Revenons à cette simplicité. L'une des principales causes de ceci est la fierté ou l'idée d'être orgueilleux, mais les symptômes de l'orgueil peuvent varier. Mais ça peut nous mener à un certain aveuglement. Apocalypse 3 et le verset 17 peuvent être vus comme un exemple d'une congrégation de l'Église de Dieu, quand même, qui n'était pas pauvre en esprit. Si on s'applique ce qu'on vient de lire, ce qu'on vient de discuter, à ce verset, est-ce que vous comprenez que cette assemblée, que cette congrégation était peut-être dans un état où il n'était pas pauvre d'esprit? Considérant le verset 17, Apocalypse 3, nous avons plusieurs de ces églises. Maintenant, bien sûr, l'église de Laodicée. Et qu'est-ce que c'est cet avertissement? Verset 17, « Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. » C'est pas pauvre. « Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour poindre tes yeux afin que tu vois. C'est ça, c'est quand même un symptôme assez important ou développé, assez sévère, de cette manque de pauvreté d'esprit. Quand on a nos priorités sur les choses et les richesses de ce monde, on est un peu aveuglé à ce qui est le plus important. Malheureusement, ça peut nous arriver. Ça, c'est une église. C'est un groupe de membres qui s'est égaré et s'est prophétisé aussi. Ça va se faire de plus en plus dans le monde qui approche à la fin de cette époque. Donc, ils étaient aveuglés à la réalité de la condition, mais ils se considéraient comme n'ayant pas besoin de rien. Ils ont estimé que leurs besoins étaient satisfaits parce que leurs priorités n'étaient pas en ordre. Donc, en étant pauvres d'esprit, nous avons besoin de Dieu. Nous sommes conscients que nous avons besoin de Dieu pour survivre. Au lieu de penser que nous n'avons pas besoin. Nous n'avons besoin de rien, nous devons nous concentrer sur la seule chose dont nous avons besoin, c'est Dieu. Et puis, en étant pauvres d'esprit, ceux qui ont l'esprit de Dieu sont ceux qui vivront dans le royaume de Dieu, comme les êtres spirituels. Et donc, nous attendons vraiment un grand changement pour l'avenir. Parce que, dans ce verset, Matthieu 5, verset 3, nous avons à la fois, comme je vous ai dit au début, nous avons cet état spirituel et une grande promesse qui nous oriente vers le royaume de Dieu. Si nous gardons le royaume de Dieu comme notre priorité ultime et sa justice, alors nous allons exemplifier, nous allons devenir des exemples de ceux qui sont pauvres d'esprit. Et nous aurons cet héritage qui nous attend, que Dieu nous promet dans l'avenir. Donc en conclusion, alors que nous considérons être pauvres d'esprit, nous nous sommes concentrés sur un état spirituel que Christ veut que nous illustrons. Être pauvre d'esprit n'est pas un état de manque. Ce n'est pas un état de souffrance, mais c'est un état où nos désirs, nos priorités sont alignés avec ce que Dieu définit. Pas seulement ce que nous voulons, mais ce dont nous avons besoin. Nous avons beaucoup à apprendre des milliards de personnes qui luttent pour vivre du jour au jour. L'une de ces leçons, c'est que tout comme ils se concentrent sur la survie physique, nous devrions nous concentrer sur la survie spirituelle. De ne jamais perdre ce don, l'Esprit de Dieu en nous. De ne jamais laisser éteindre, si vous voulez, la puissance de l'Esprit de Dieu en nous. Nous pourrions nous demander, suis-je concentré sur les besoins spirituels ou physiques de ma vie? Nos activités quotidiennes devraient impliquer de chercher à grandir dans le fruit de l'esprit, remplacer le mal par le bien, partager le don de Dieu et l'abondance avec ceux qui nous entourent. Que plusieurs d'entre nous aient notre pain quotidien et encore plus. De prier toujours que ton royaume vienne. Après tout, cette béatitude a de grandes promesses qui lui sont attachées. Tels sont heureux, parce qu'il y a plus de plaisir à penser à soi-même, tel que nous sommes qu'à être remplis d'orgueil et de vanité, parce que tel Jésus choisit de bénir, et sur eux il confère ses faveurs, et parce que celui qui met en pratique cette béatitude, sera le royaume des cieux. Un grand héritage nous attend au retour de Christ, notre roi et notre grand berger.